Tout de suite, c'est le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Que va devenir la frontière irlandaise après le nouvel accord de Brexit trouvé hier entre Boris Johnson et la Commission européenne? Nous essaierons d'y voir plus clair. Le fameux backstop censé empêcher le retour des contrôles douaniers entre l'Irlande et l'Irlande du Nord a disparu, remplacé par ce qui ressemble bien à une usine à gaz, nous dira Marie-Pierre Véraud depuis Bruxelles.
En Syrie, le cessez-le-feu approuvé hier par la Turquie et les forces kurdes à l'initiative des Américains montre déjà sa fragilité. Des tirs ont été entendus ce matin dans la région concernée. Nous ferons le point avec Claude Guibal.
Nous irons en Catalogne, également à Barcelone, où convergent plusieurs cortèges venus de toute la région. En réponse au verdict lundi de la Cour suprême espagnole, un appel à la grève générale a été lancé contre les lourdes peines de prison dont ont écopé plusieurs indépendantistes catalans.
Dans votre journal également, la France, avec des perturbations ce matin dans les transports ferroviaires après que plusieurs contrôleurs et conducteurs ont exercé leur droit de retrait. Ils réagissent à un accident survenu mercredi. Accident à un passage à niveau. Le chauffeur d'un train percuté était le seul agent à bord. Les syndicats protestent contre le manque de contrôleurs dans les trains.
Nous reviendrons également sur les effets à prévoir de l'entrée en vigueur de la surtaxe douanière imposée par les États-Unis sur plusieurs produits européens, dont les vins français. Et sur le deuxième verdict attendu dans l'affaire Balkany, cette fois-ci sur le volet blanchiment et corruption. Enfin, l'invité de la rédaction à la fin de ce journal, c'est Philippe Petit-Collin, directeur général de Safran. Nous parlons d'aéronautique et d'écologie. À 12h55 dans la suite de la Grande Table, Olivia.
Art, science et amour peuvent-ils s'allier pour éclairer, expliquer toutes les formes d'attachement qui peuvent nous lier? L'amour est-il désormais un objet scientifique? Nous en parlerons avec nos invités, la co-commissaire de l'exposition De l'amour à voir au Palais de la Découverte, Astrid Aron, et le philosophe Francis Wolff.
À tout à l'heure. L'accord de Brexit entre Londres et Bruxelles, accord pourtant réputé immuable, a donc été modifié hier in extremis après des négociations ardues entre les deux parties. Le sujet qui fâchait, celui du backstop, a tout simplement disparu de la nouvelle mouture du texte. Il a été remplacé par tout un tas de nouvelles dispositions. Boris Johnson se dit persuadé qu'avec ce nouvel accord, il obtiendra la majorité à Westminster. Ce sont en effet les députés britanniques qui détiennent désormais les clés du Brexit. Il faudra 320 votes au Premier ministre britannique pour obtenir un Brexit avec accord. Or, sa majorité ne dispose désormais que de 288 élus. Les tractations ont déjà commencé. Le vote se tiendra demain. Un vote qui devrait donc tenir compte de ce qui a remplacé ce filet de sécurité entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Alors, qu'est-ce qui va très concrètement changer pour l'Irlande après cet accord? Les précisions depuis Bruxelles de Marie-Pierre Véraud.
Le protocole sur l'Irlande a été complètement réécrit. Au lieu du backstop, ce filet de sécurité qui prévoyait un maintien de l'île au sein de l'Union douanière européenne, faute d'une meilleure solution qui restait à inventer, eh bien on a écrit cette solution, ce qui crée plus de certitude. Mais c'est aussi un peu une usine à gaz qui a été inventée, car l'Irlande du Nord, territoire britannique, va à la fois rester dans le système douanier du Royaume-Uni, tout en appliquant les normes européennes du marché unique, notamment en matière sanitaire ou pour les produits agricoles. C'est un statut hybride donc. Il fallait faire rentrer un carré dans un cercle, selon l'image de Michel Barnier. Ce qui a été définitivement écarté, c'est le spectre d'une frontière terrestre sur l'île pour préserver la paix. Cette frontière passera au sein du Royaume-Uni, entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, en mer ou dans les ports de la province. C'était une vraie ligne rouge pour Londres, il a fallu en rabattre. Tout cela est joli sur le papier, mais c'est l'application concrète qui risque de poser problème, notamment les arrangements douaniers. Ce sont les Britanniques qui seront chargés des contrôles et de la perception de la TVA et des droits de douane, différents selon que les produits resteront en Irlande du Nord ou auront vocation à passer en République d'Irlande, donc en Europe. Comment s'assurer que des marchandises ne passeront pas entre les mailles du filet? Cela reste flou. Un point important, les Nord-Irlandais n'auront pas de droit de veto avant la mise en place de l'accord de divorce, mais ils pourront se prononcer 4 ans après et éventuellement en sortir.
Marie-Pierre Véraud, on le disait, Boris Johnson devra se battre pour chaque voix avant le vote à Westminster demain. Première séance du Parlement à se dérouler un samedi depuis la guerre des Malouines en 1982. Les partis de l'opposition ont déjà prévenu qu'ils voteraient contre cet accord. Le parti unioniste nord-irlandais, le DUP, allié clé de Downing Street, est vent debout contre ce compromis. En attendant ce vote, le Conseil européen se poursuit. Il est question aujourd'hui de budget européen post-Brexit. Londres était en effet l'un des principaux contributeurs à ce budget. Et sur ce sujet, il est peu probable qu'un accord soit trouvé rapidement. Que vaut le cessez-le-feu accepté par la Turquie et les Kurdes hier et vendu ce matin par Donald Trump comme un grand jour pour les deux parties? C'est la question qui se pose alors que des échanges de tirs ont été entendus ce matin dans la zone concernée par l'arrêt des combats. Alors également que les termes de ce cessez-le-feu sont provisoires et que les forces en présence sur le terrain ne sont pas complètement sous contrôle. Hier, pourtant, donc le président américain s'est vanté de cet accord lors d'un meeting en assimilant les deux parties à des, je cite, gamins qu'il aurait fallu laisser se battre un peu avant de les arrêter. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
Ce cessez-le-feu donc comprend beaucoup de points de suspension.
Oui, beaucoup de points de suspension en effet, Anne-Laure. Et on le comprend hein, avec ces combats qui continuaient donc ce matin à Ras El Ain, tirs d'artillerie, frappes aériennes. Il faut vraiment comprendre que sur place, la situation, elle est quand même très complexe. On a affaire à des milices, des groupes armés différents et tout n'est pas contrôlable en un claquement de doigts. Or, les choses n'ont pas été simples. On l'a compris hier en voyant les visages très fermés de Mike Pence et Recep Tayyip Erdogan à l'issue de ces 4 heures d'entretien. Et cette trêve, ce sont 5 jours seulement, 120 heures de sursis laissées par les Turcs pour que les forces kurdes se retirent d'une bande de 32 km de large. Alors, une bande tampon le long de la frontière où la Turquie ne veut pas voir s'installer les combattants kurdes YPG, les YPG qui sont les pendants côté syrien des combattants kurdes du PKK. Le PKK, vous le savez, qui en Turquie sont les ennemis jurés du régime qui les considèrent donc comme des terroristes. Alors, la Turquie, elle obtient donc ce qu'elle voulait. D'abord, la levée des sanctions américaines dès l'arrêt de l'offensive et le retrait des Kurdes de cette zone où les populations sont à majorité arabes. Les Kurdes, eh bien, eux, ils n'ont probablement pas eu le choix. Et c'est bien ce que Donald Trump a cyniquement cherché à leur montrer hier en se posant en sauveur comme celui qui a finalement empêché le massacre total. Autre vainqueur, le régime syrien qui a commencé à revenir dans des zones où il n'avait plus de présence depuis des années. Et la Russie qui s'est engouffrée dans le vide laissé par le retrait américain, notamment à Amin Beach où des soldats russes déjà patrouillent dans la ville.
Merci pour ces précisions. Claude Guibal. En Catalogne, le verdict du tribunal suprême n'est toujours pas digéré et les manifestations qui ont suivi ont continué jusqu'à ce matin. Aujourd'hui, c'est à la grève générale que sont appelés les indépendantistes catalans. On rappelle que lundi dernier, 9 dirigeants indépendantistes ont été condamnés à des peines de prison de 9 à 13 ans pour avoir organisé un référendum d'autodétermination en octobre 2017. Référendum suivi d'une déclaration unilatérale d'indépendance. Un verdict qui a donc jeté de l'huile sur le feu encore brûlant de l'indépendantisme catalan. À Barcelone, où 5 marches de la liberté venues de toute la province vont bientôt converger et où les transports sont à l'arrêt. Le reportage de Thibault Lefebvre.
Peu de trains, pratiquement pas de bus et de nombreux Barcelonais comme Pedro contraints d'aller travailler à vélo.
Je travaille parce que je ne suis pas d'accord avec cette grève. C'est une idéologie qui veut imposer ses idées au service d'intérêts personnels. Ils ne consultent pas le peuple, ils n'en ont rien à faire des gens, de ce que nous pensons. Ça aboutit à une crise et les dirigeants ne savent pas comment en sortir. La classe politique incite et encourage tout ça. Ça va mal finir, ils sont fous.
Et parmi les fous, selon Pedro, il y a l'actuel dirigeant de la région, l'indépendantiste Quim Torra. Il a proposé hier un nouveau référendum d'autodétermination, une idée qui a eu le mérite de ne mettre personne d'accord. Seca Sabeya est une des responsables de l'ANC, une des deux associations indépendantistes organisatrices de la manifestation.
On a fait le référendum et on l'a gagné. Il ne reste plus qu'à l'appliquer. Il est évident que ce n'est pas parce qu'on subit de la répression qu'on doit perdre de vue la route à suivre et qui nous mènera à l'indépendance.
Une indépendance gagnée donc selon la majorité des manifestants lors du référendum de septembre 2017. Selon le dernier sondage commandé en juillet dernier par le gouvernement régional, moins de 45% des 7,5 millions de Catalans se déclarent aujourd'hui favorables à l'indépendance.
Thibault Lefebvre avec les moyens techniques d'Yves Lehors. La crise politique sévère que connaît le Liban s'est encore accentuée ces derniers jours. Le gouvernement de Saad Hariri est confronté à des appels à la démission. Toute cette nuit, des milliers de personnes ont manifesté en brûlant des pneus ou coupant des routes. Une colère déclenchée par la décision gouvernementale de taxer les appels passés via des applications de messagerie internet type WhatsApp ou Viber. Une décision aussitôt retirée sous la pression de la rue, mais le sentiment de ras-le-bol n'a pas cessé. Sous l'effet de la crise économique qui perdure et de l'affairisme des élites politiques, la dette publique libanaise culmine à plus de 86 milliards de dollars, soit plus de 150% du PIB, troisième taux le plus élevé au monde après après le Japon et la Grèce. Au Mexique, la lutte contre le crime organisé atteint parfois des sommets de violence à l'image de l'arrestation du fils du fameux El Chapo, Ovidio Guzmán López, de son vrai nom, fils donc du fondateur du puissant cartel de la drogue de Sinaloa, l'une des régions considérées comme les moins sûres du pays. L'arrestation s'est déroulée à Culiacán, le fief d'El Chapo, aujourd'hui emprisonné aux États-Unis dans un déluge de tirs et d'explosions. Olivier Poujade.
C'est à la suite d'une patrouille de routine que la situation a dégénéré. Culiacán, hier après-midi, les forces de police passent à proximité d'une villa et sont immédiatement prises pour cible. Quatre hommes sont interpellés, parmi eux Ovidio Guzmán López, fils du célèbre Chapo. La nouvelle de son arrestation se répand, la rumeur de sa mort circule également. La réaction des membres du cartel est instantanée. Des barricades sont dressées pour couper les axes routiers, des explosions de véhicules retentissent dans toute la ville, une démonstration de force sidérante. Depuis son véhicule, un reporter mexicain circule dans les rues de Culiacán et tente de décrire la scène. Après des heures d'affrontement dans les rues de Culiacán, le ministre de l'Intérieur mexicain prend la décision de relâcher Ovidio Guzmán López pour, je cite, « préserver les vies des hommes de la garde nationale ». Une défaite pour le président mexicain López Obrador. Les embuscades contre les forces de sécurité se sont multipliées dans le pays ces derniers jours. Il y a 48 heures, 13 policiers ont trouvé la mort dans le centre du Mexique. Attaque revendiquée par le cartel local.
Olivier Poujade. Les avions, les vins français, les fromages italiens, les whiskies écossais et bien d'autres produits encore seront surtaxés à partir d'aujourd'hui à destination des États-Unis. Une hausse des tarifs douaniers décidée par l'administration américaine, 4 jours seulement après le feu vert de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui a autorisé donc Washington à imposer des sanctions contre Bruxelles en représailles à des subventions accordées par l'Union européenne à Airbus. Une décision qui pourrait ébranler entre autres filières celle des vins français, une filière qui commerce en effet largement avec les États-Unis et qui a demandé au gouvernement français de prendre des mesures d'urgence. Les précisions d'Anne-Laure Jumet.
Premier marché à l'international pour les vins français, les États-Unis concentrent 20% des exportations de la filière, des vins plébiscités par des Américains aisés. L'impact de cette surtaxe de 25% sera-t-il donc important pour certains professionnels? Même si les prix sont plus élevés, le consommateur ne devrait pas tourner le dos aux vins français qu'il apprécie. Un argument battu en brèche par le président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux, Alain Leccia. Pour lui, il y aura sans doute au contraire une baisse des ventes.
L'importateur va devoir payer 25% de taxes à l'État américain. Et donc il va répercuter immédiatement cette taxe sur le prix des produits à un distributeur qui lui-même va revendre à un caviste ou bien un restaurateur ou bien un supermarché. Par le jeu des marges successives, on se retrouve avec finalement une augmentation finale de l'ordre de 35% auprès du consommateur. Et puis bien évidemment, celui qui achète un vin parce qu'il achète un vin dans la gamme des 15 à 18 dollars, eh bien il va prendre ce qui est dans la gamme des 15 à 18 dollars. C'est-à-dire probablement des vins italiens, on parle des vins chiliens, on parle des vins australiens, des vins du Nouveau Monde, et bien sûr des vins américains.
La Fédération des exportateurs de vins et spiritueux en appelle donc au gouvernement français, lui demandant de débloquer 250 millions d'euros. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, réclame lui pour l'instant de l'aide au niveau européen pour soutenir la filière viticole.
Anne-Laure Jumet, c'est un mouvement sans préavis qui a fortement perturbé ce matin le trafic ferroviaire sur le réseau des TER et sur plusieurs lignes d'Île-de-France, dans les RER B et D notamment. Un mouvement spontané motivé par le droit de retrait de conducteurs et contrôleurs après un accident qui s'est produit mercredi. Cet accident a eu lieu en Champagne-Ardenne où un TER a percuté un convoi exceptionnel coincé sur un passage à niveau. 3 blessés légers sont à déplorer, dont le conducteur du train. Mais là où le bât blesse, c'est que ce chauffeur était le seul agent SNCF à bord. Aucun contrôleur n'était présent, ce qui a provoqué donc la colère des syndicats. Leur cible, ce mode d'exploitation imaginé par la SNCF appelé « équipement agent seul ». Autre façon de dire donc qu'un train circule sans contrôleur. Hakim Kasmi a joint ce matin Bruno Poncé, délégué Sudrail SNCF.
Mercredi, notre collègue a été uniquement blessé. Et il a quand même pu, après derrière, faire la protection de son train. Mais imaginez, il est blessé réellement, et il peut pas bouger. Derrière, vous avez des gens qui sortent sur les voies et il y avait un train croiseur qui arrivait. Il y avait un train qui arrivait en face. Donc là, les gens sont en danger. Si vous avez un contrôleur derrière, le contrôleur est là pour aider le conducteur à faire les manœuvres de protection. En plus, il est là pour gérer les passagers. Il est aussi là, alors quand le train circule dans des conditions normales, pour veiller à la sécurité et à la sûreté des gens à l'intérieur du train. Et aujourd'hui, ça fait des années que cet équipement est mis en place, ça fait des années qu'on le combat, nous. On l'a combattu dans toutes les régions où il a été mis en place. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'insécurité dans les trains. Alors, aussi bien, malheureusement, à l'encontre des gens qui voyagent, mais aussi à l'encontre du contrôle du conducteur qui se retrouve seul, voilà, c'est un vrai danger. Et aujourd'hui, nous, on estime que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça fait des années qu'on dit que c'est dangereux. Ça fait des années qu'on dit que on met les passagers en danger et les cheminots en danger. L'entreprise n'écoute pas. L'entreprise veut toujours aller au moins 10 ans social et supprimer des postes. Et aujourd'hui, on voit la conséquence. On est passé à côté d'une catastrophe ferroviaire grave avec peut-être plusieurs morts.
Pourquoi ça aurait pu être très grave?
Parce que si les gens se retrouvent sur les voies et qu'en même temps, il y a un train qui arrive en face, mais qu'est-ce qui se passe? Le train, il n'a pas le temps de s'arrêter. Vous savez, il faut plusieurs dizaines de mètres pour arrêter un train qui roule à plus de 60 ou 80 km/h. Là, les gens auraient été frappés par le train. Donc voilà, et aujourd'hui, c'est une des conséquences de ce dispositif qui est en place.
Le délégué Sudrail SNCF, Bruno Poncet. Un deuxième jugement est attendu cet après-midi dans le deuxième volet de l'affaire Balkany. L'ancien maire de Levallois est déjà en prison après avoir écopé d'une peine ferme pour fraude fiscale. Aujourd'hui, c'est sur les accusations de blanchiment et de corruption que la justice va trancher, alors que Patrick Balkany donc est en prison depuis un mois à la maison d'arrêt de la Santé. Il aurait refusé son extraction de prison ce matin pour recevoir cette deuxième sentence. Il faut dire que pour ces dernières accusations, les peines requises sont encore plus importantes que pour le premier volet de l'affaire. Les explications de Florence Turm.
De prime abord, on pourrait penser que la décision la plus lourde, en tout cas symboliquement, est déjà derrière lui. Le mandat de dépôt délivré à l'audience du 13 septembre dernier avait constitué une onde de choc, dénoncée par la défense comme totalement inutile, humiliante et inacceptable. Le tribunal avait reconnu les époux Balkany coupables de fraude fiscale et suivi les réquisitions du parquet national financier. 4 ans de prison ferme pour lui, 3 ans ferme pour elle, mais sans incarcération immédiate. Aujourd'hui, Patrick Balkany encourt en fait une peine plus lourde encore dans cet autre volet du procès que les juges avaient choisi de séparer du premier, provoquant là encore l'indignation de la défense. Blanchiment de fraude fiscale et corruption, l'accusation avait requis une peine à la hauteur de l'atteinte à la démocratie, pour reprendre ces termes, 7 ans de prison ferme à l'encontre du maire de Levallois, 10 ans d'inéligibilité et la confiscation de tous les biens des époux Balkany, dont le moulin de Giverny et ce riad de Marrakech dont il nie toujours être propriétaire. Ce riad reste l'élément clé du présumé pacte de corruption dont la défense des autres prévenus affirme elle aussi qu'il ne repose sur aucune preuve. Parmi eux, le milliardaire saoudien Mohamed Al-Jaber qui voulait réaliser un gigantesque projet immobilier à Levallois. Le riad offert aux époux Balkany aurait alors été une contrepartie pour obtenir des délais de paiement sur ce marché. Les deux hommes, pourtant en froid depuis l'échec de l'opération immobilière, ont fermement démenti en expliquant qu'il n'y avait dans cette affaire ni corrupteur ni corrompu.
Florence Turm. Midi 48 sur France Culture. L'invité de la rédaction ce vendredi, c'est Philippe Petit-Collin. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Vous êtes directeur général de Safran, l'un des principaux équipementiers français de l'aéronautique. À mes côtés, pour vous interroger, Hakim Kasmi, spécialiste aéronautique du service économique de France Culture. Bonjour Hakim.
Bonjour Anne-Laure.
Alors première question monsieur Petit-Collin. Hier, les députés ont voté l'instauration d'une taxe sur les billets d'avion, avalisant ainsi le principe pollueur-payeur. C'est donc aux industriels et aux consommateurs aussi de payer la facture du réchauffement climatique. Vous êtes d'accord avec ce principe?
Écoutez, je n'ai pas vraiment à m'exprimer sur une décision politique. Le principe de mettre ou de ne pas mettre de taxes dépend des gouvernements. Les deux seuls points sur lesquels je veux quand même insister, le premier, c'est que les compagnies aériennes au niveau mondial ne font pas beaucoup de profits. La moyenne, c'est une trentaine de milliards sur plus de 700 milliards de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, 4% de rentabilité, donc c'est très faible aujourd'hui. Ça fait une dizaine d'années que les compagnies sont profitables, mais si on regarde sur une période de 30 ans ou 40 ans, les compagnies aériennes perdent de l'argent. Donc faisons attention à ne pas surtaxer les compagnies aériennes alors que leur bon modèle économique est assez fragile. La deuxième chose sur laquelle je voudrais quand même insister, c'est le fait que dès lors que l'on met des taxes, ce que je souhaite, c'est qu'elles soient égalitaires et qu'elles soient proportionnées au niveau mondial. Ne pas pénaliser tel pays et telle compagnie aérienne de tel pays par rapport à d'autres. On voit bien que les modèles sont quand même extrêmement fragiles. Regardez Aigle Azur, regardez XL Airways. On voit bien que les compagnies aériennes sont quand même dans un business model qui est assez difficile.
Une question d'Hakim Kasmi.
Alors, monsieur Bodicolin, l'aviation représente aujourd'hui 2% des émissions de CO2, 5% du réchauffement climatique. Il y a 4,5 milliards de passagers prévus cette année qui vont prendre l'avion. Le trafic devrait doubler dans les 20 prochaines années. Concrètement, que faites-vous, vous, en tant qu'équipementier chez Safran, pour réduire les émissions de CO2 des avions?
Nous travaillons tous les jours en termes de recherche, en termes de technologie, en termes d'innovation pour améliorer en particulier le fonctionnement de nos moteurs. Nous travaillons sur les moteurs dans trois grands axes. Le premier axe, c'est l'utilisation de fuels alternatifs, ce que nous appelons communément les biofuels. Mais là, il y a un problème d'adéquation entre la disponibilité et la demande. Nous sommes à 0,1% d'utilisation de biofuel aujourd'hui parce qu'il n'y en a pas de disponible. Nous sommes capables de brûler des biofuels jusqu'à 30 ou 40% de proportion par rapport à des fuels standards dans nos avions et dans nos moteurs. Demain, on pourra aller à 100% et on saura mettre à niveau les moteurs pour qu'ils puissent brûler exclusivement du biofuel. La deuxième grande challenge tourne autour des architectures de moteurs. Est-ce que le public est capable aujourd'hui d'accepter des hélices de nouveau? On sait que des open rotor, des moteurs à hélices contrarotatifs peuvent faire gagner 10-15% de fuel supplémentaire. Il faut savoir les positionner sur un avion et que le public accepte de revoler avec des hélices.
Et pourquoi le public n'accepterait pas?
Parce que ça peut être vu comme un mouvement en arrière par rapport à l'arrivée des jets et le fait qu'on a remplacé des hélices par des moteurs totalement carénés. Le troisième point, c'est les énergies alternatives, en particulier l'énergie électrique qui pourrait remplacer la propulsion thermique actuelle. Mais là, pour les avions commerciaux, je ne vois pas de propulsion électrique à court moyen terme, pas avant 2050-2060. En attendant, on utilisera peut-être comme un turbo de la propulsion électrique pour venir, ce qu'on appelle de l'hybridation, supporter la propulsion thermique.
Oui, parce que concrètement aujourd'hui, si on voulait qu'un Airbus A320 ou un Boeing 737, des avions qu'on prend souvent pour aller en France ou en Europe, puissent voler de manière totalement électrique, il faudrait qu'il soit aussi gros qu'un Airbus A380 pour loger ses batteries.
Et c'est totalement exact. Si on prend la technologie des batteries actuelles, qu'on les améliore de 5 ou 6 fois, il faudrait, pour faire un Paris-Toulouse, de l'ordre de 100 tonnes de batterie. Et un avion A320, c'est 100 tonnes. Donc c'est-à-dire qu'on devrait avoir un avion seul pour pouvoir transporter ces batteries, ce qui n'est absolument pas quelque chose de concevable, bien entendu.
Alors l'avenir proche, c'est plutôt ce qu'on appelle un peu aujourd'hui les taxis volants, que va notamment développer la RATP, mais aussi Airbus. C'est ça l'avenir proche?
Oui, ça c'est très très proche. Je pense que en ce qui concerne ce que nous appelons communément les VTOL, donc des systèmes de qui pourraient transporter soit du fret, je pense que ça démarrera par du fret, donc des marchandises, soit après des personnes en interurbain, nous sommes à 3-4 ans de voir ces premiers engins voler dans le ciel au niveau mondial.
Les engins qui seront, rappelons-le, totalement électriques.
Hein. Totalement électriques. Nous travaillons sur des moteurs électriques aujourd'hui qui peuvent faire 500 kW, ils pourront aller jusqu'à 1000 kW et qui devraient donc permettre de pouvoir répondre à ce besoin qui est imminent. On travaille énormément avec les Américains qui sont en avance par rapport aux Européens. On travaille avec Boeing, on travaille avec Bell, on travaille indirectement avec des gens comme Uber pour pouvoir répondre à ces nouveaux besoins.
Alors concrètement, aujourd'hui, ce qu'il faut expliquer, c'est que la difficulté pour un avion, c'est la puissance qu'il doit dégager au décollage. Et ça, pour l'instant, avec de l'électrique, on ne sait pas encore le faire totalement.
Totalement. Vous avez totalement raison. Aujourd'hui, nous avons besoin, sur les avions commerciaux, je ne parle pas de commuteurs, potentiellement les commuteurs jusqu'à 10 ou 15 personnes pourront à terme se voir mus par de la propulsion électrique. On travaille d'ailleurs avec une société qui s'appelle Daher en France et avec Airbus sur un projet de commuteurs pour pouvoir répondre à ces besoins. Mais pour les avions commerciaux, vous avez totalement raison.
Dernière question rapidement, M. Petit-Colin. Aujourd'hui, il y a l'entrée des surtaxes qui vont concerner notamment le vin, mais aussi Airbus autour de 10%. Vous, en tant qu'équipementier de Boeing et d'Airbus, êtes-vous concerné par ces surtaxes?
Nous ne sommes pas directement concernés. Nous pouvons continuer à livrer nos moteurs, nos équipements, nos systèmes, nos sièges aux États-Unis sans avoir de surtaxes directes imposées par le gouvernement américain.
Merci beaucoup, monsieur Petit-Collin, donc directeur général de Safran. Et merci à Kim Kasmi. Un mot rapide du temps de ce jour pour finir. Toujours Mossad et pluvieux, excepté sur la Corse, le sud de Midi-Pyrénées et le Roussillon. Les températures comptées cet après-midi de 14 à 21 degrés du nord au sud jusqu'à 24 degrés en Corse. Le prochain journal, ce sera à 18h avec Vianney Smiarowski.